en votre compagnie Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Nous commençons par le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté mardi les pays ou les régions ayant instauré des mesures de confinement de la population à ne pas les lever de manière trop précoce pour ne pas avoir de rechute. Le président américain Donald Trump a lui menacé mardi de suspendre la contribution américaine à l'OMS. Nous y reviendrons. La ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie, a commencé à lentement retourner à la normale. L'espoir, dit-on, que le coronavirus peut être dompté. Et à Londres, l'état du premier ministre britannique Boris Johnson, traité dans une unité de soins intensifs, a été qualifié hier de stable. Le nouveau coronavirus a encore tué des milliers de personnes en Europe et aux États-Unis, avec un triste record de 731 morts en 24 heures, pour un total de 5489 décès dans l'État de New York. On signale aussi un record de près de 2000 morts dans le pays au cours des dernières 24 heures, pour un total de 12722 sur 396223 cas confirmés. La France a été mardi le quatrième pays à franchir la barre des 10 000 morts officiellement comptabilisés après l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Et dans le monde, on s'approche des 100 000 morts avec plus de 80 000 recensés mardi par l'AFP. Une population semble particulièrement exposée ici aux États-Unis d'après des remontées provenant de quelques juridictions dont Chicago et Washington. Les Noirs. Le président Trump a promis, lors de son point de presse à la Maison-Blanche, de se pencher sur la question. En Afrique, les victimes de l'ancien président tchadien Hissen Habré s'inquiètent du risque que sa sortie temporaire de prison, motivée selon le Sénégal par le coronavirus, ne devienne définitive. Reed Brody, défenseur des victimes et avocat pour l'ONG Human Rights Watch, a dit hier à l'AFP, la crainte c'est que Hissen Habré s'est servi des millions de dollars qu'il a volés dans les caisses du trésor tchadien pour se constituer un réseau de protection. La crainte c'est que cela ne soit une libération déguisée. Il y a beaucoup de pression depuis un an de la part de Habré et de ses soutiens pour sa libération, a-t-il ajouté. En Guinée équatoriale, deux pasteurs brésiliens sont en attente d'expulsion et leurs congrégations, qui ont des milliers de fidèles dans le pays, ont été interdites après la tenue de messes non autorisées pour empêcher la propagation du coronavirus, a appris l'AFP mardi auprès du ministère de la Justice. Par leurs actions, ils s'avèrent insensibles au sort de l'ensemble des citoyens, selon la présidence, qui a déclaré la dissolution des deux églises. Au Mozambique, les groupes djihadistes qui sèment la terreur depuis plus de deux ans dans le nord du pays ont mené lundi et mardi une nouvelle série d'attaques contre 8 villages de la région, a appris l'AFP auprès de la police et des autorités locales. Ils y ont détruit des bâtiments publics et des infrastructures avant de s'en retirer, selon les mêmes sources. Ces violences dans le nord ont fait au moins 900 morts, selon des ONG, et causé le déplacement d'au moins 150 000 personnes, selon les autorités. En Ouganda, un tribunal a inculpé hier pour torture aggravée 10 policiers accusés d'avoir forcé un groupe de femmes à s'assujettir à des gestes dégradants avec de la boue, pour les punir d'avoir contrevenu au couvre-feu en vigueur contre le nouveau coronavirus. Déjà, dans un communiqué daté du 2 avril, Human Rights Watch avait accusé les forces de sécurité ougandaises d'utiliser une force excessive, incluant les passages à tabac, les coups de feu et la détention arbitraire, pour faire appliquer les mesures de prévention du coronavirus. VO Afrique, Washington DC. la suite de nos informations. Au Cameroun, le parti du président Paul Biya a remporté les 13 sièges remis en jeu lors des législatives partielles organisées fin mars dans les régions anglophones. C'est ce qu'a annoncé hier le Conseil constitutionnel, Nathalie Barge.
Le RDPC rafle la mise dans les 11 circonscriptions du Nord-Est et une du Sud-Ouest. Le parti de Paul Biya conforte ainsi sa large majorité à l'Assemblée nationale avec 152 sièges sur 180. Une partie de l'opposition avait boycotté les législatives du 9 février et le SDF, le Front social-démocrate de John Frundi, avait contesté les résultats. Le Conseil constitutionnel lui avait donné raison, annulant le scrutin dans les circonscriptions où il a été reprogrammé. Au lendemain de l'organisation des partiels le 22 mars, le SDF a à nouveau demandé une annulation, mais le vote a été entériné. Le SDF devient troisième parti à l'Assemblée nationale avec le PCRN de Cabral Libi. Les deux principaux partis d'opposition au Parlement comptent chacun 5 députés.
L'armée américaine a annoncé hier avoir tué un dirigeant des Chebabs somaliens lors d'une frappe menée la semaine dernière à quelques 200 km à l'ouest de Mogadiscio, la capitale. Le point avec Abdourahman Dia.
Youssouf Djiss était l'un des fondateurs de ce groupe djihadiste et il avait occupé plusieurs fonctions importantes au sein des Chebabs, a indiqué le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique dans un communiqué. La frappe qui a éliminé Youssouf Djiss a été menée le 2 avril à proximité de Bouch Madina, tuant 3 Chebabs. Nous aimerions bien faire une pause dans nos opérations en Somalie à cause du coronavirus, mais les dirigeants d'Al-Qaïda, des Chebabs et du groupe État islamique ont annoncé qu'ils considéraient cette crise comme une opportunité de faire avancer leur programme terroriste, a ajouté le général Stephen Townsend, patron d'Africom. Nous continuerons donc à soutenir nos partenaires africains, a-t-il indiqué. Une autre frappe a été menée lundi contre les Chebabs dans la région de Djilib, tuant 5 djihadistes selon l'armée américaine. Affiliés à Al-Qaïda, les Chebabs combattent le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.
Le président américain Donald Trump a critiqué hier l'Organisation mondiale de la santé. Le locataire de la Maison-Blanche accuse l'OMS d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie de coronavirus. Précision de Jacques Aristide.
Le président Trump a formulé de vives critiques dans un tweet au moment où les États-Unis ont dépassé la barre des 11 000 morts liés au Covid-19. L'OMS, écrit-il, s'est vraiment planté. Étrangement, ils sont largement financés par les États-Unis et pourtant très centrés sur la Chine. Nous allons nous pencher avec attention sur le dossier, dit-il. Il ajoute « Heureusement, j'ai rejeté leurs conseils initiaux de laisser nos frontières avec la Chine ouvertes. Pourquoi nous ont-ils donné une recommandation aussi erronée ?» se demande-t-il. L'OMS a recommandé le 31 janvier de maintenir les frontières ouvertes malgré l'épidémie, ce qui n'a pas empêché l'administration américaine d'annoncer le même jour l'entrée en vigueur de restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine. La semaine dernière, le sénateur républicain Marco Rubio a réclamé la démission du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a permis à Pékin, dit-il, de tromper la communauté internationale. L'Amérique est le pays du monde qui compte le plus grand nombre de cas officiellement déclarés de Covid-19.
La Minute Éco est Japon.
La première compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines, a déjà perdu un demi-milliard de dollars et fermé la plupart de ses lignes passagers depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et s'est tournée pour atténuer l'impact vers les sols charter et fret, a annoncé son PDG. Ces dernières semaines, Ethiopian Airlines a distribué de l'équipement médical sur le continent africain, rapatrié des bénévoles américains et évacué depuis les États-Unis vers leur pays d'origine en Asie des employés de paquebots de croisière. La pandémie pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique, comme par exemple la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement, prévient une étude de l'Union africaine. Elle estime que les pays dont l'économie repose sur le tourisme ou la production pétrolière sont les plus à risque. Le continent africain pourrait voir ses importations et exportations baisser de 35%, soit environ 270 milliards de dollars. Au Cameroun, les transporteurs routiers demandent la baisse du prix du carburant et le gel du paiement des taxes pour pallier au durcissement des mesures anti-coronavirus. Il s'agit de la désinfection des véhicules de transport avec des produits hydroalcooliques à bord, réduction du nombre maximum de passagers dans les taxis et les bus interurbains sous peine de sanctions. Le ministre des Transports, Ernest Masenangale Bibéé, s'est engagé à transmettre ses suggestions des syndicats au Premier ministre.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Basketball pour commencer. Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré qu'il ne prendrait pas de décision sur le maintien ou l'annulation de la saison avant le mois de mai. La NBA a suspendu jusqu'à nouvel ordre sa saison au soir du 11 mars après que le pivot français de Utah Jazz, Rudy Gobert, a été le premier joueur de la Ligue testé positif au Covid-19. Depuis, une quinzaine d'autres joueurs de la Ligue ont aussi contracté le virus. La saison régulière devait se terminer le 15 avril et les playoffs débuter le 18 pour aboutir au final début juin. M. Silver a également révélé qu'aucune décision n'a été prise sur la reprise de la saison régulière ou l'idée de redémarrer directement au stade des playoffs. En football, des dirigeants de la FIFA ont reçu des pots de vin pour voter en faveur de l'attribution à la Russie et au Qatar des Coupes du Monde 2018 et 2022. C'est ce que révèle un document publié par le procureur fédéral américain de Brooklyn. Selon l'acte d'accusation, Jack Warner, l'ancien président de la Fédération de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a reçu 5 millions de dollars pour voter en faveur de la Russie. Le document cite également Rafael Salguero, ancien président de la Fédération guatémaltèque de football, qui se serait vu promettre 1 million de dollars en échange de son soutien à la candidature russe. La Russie a démenti avoir versé ses pots de vin à des dirigeants de la FIFA pour obtenir le droit d'organiser le Mondial 2018. Pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, le document met en cause, entre autres, l'ancien président de la Fédération brésilienne Ricardo Teixeira et l'ancien président de la Confédération sud-américaine de football Nicolas Léos, décédé en août 2019. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a réaffirmé que l'attribution du Mondial 2022 au Qatar est liée à une intervention politique, rejetant les accusations de la justice américaine faisant état de pots de vin pour attribuer les Mondiaux 2018 et 2022. En Italie, les clubs du championnat interrompus depuis le 9 mars ont trouvé un accord sur la réduction des salaires de leurs joueurs face à la crise provoquée par le coronavirus. Il a été prévu une réduction d'un tiers de la rémunération brute annuelle des joueurs en cas d'annulation définitive de la fin de la saison. Si le championnat devait en revanche reprendre, la diminution ne serait que d'un sixième de la rémunération brute annuelle. Des accords individuels doivent aussi être signés entre les clubs et les joueurs qui renoncent à une somme comprise entre 2 mois et 4 mois de salaire. Cette décision annoncée par la Ligue a été prise à l'unanimité des clubs de Serie A, à l'exception de la Juventus qui a précédemment trouvé un accord avec ses propres joueurs. D'après le club turinois, les baisses de salaire acceptées par ses joueurs et son entraîneur auraient un impact positif de 90 millions d'euros sur l'exercice financier 2019-2020.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, BioAfrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous n'en verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOAfrique et VOAfrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, près de 1200 prisonniers ont été libérés du centre pénitentiaire de Kinshasa à Makala par crainte de contamination massive au Covid-19. Cette prison, la plus grande du pays, construite à l'époque coloniale pour 2500 prisonniers, en hébergeait près de 9000. Eddie Isango a joint le ministre congolais des droits humains, André Litté, à CBA.
On en est à une série de libérations qui va suivre, je pourrais même ici dire de façon prémonitoire. Ça va se passer ainsi partout à travers le pays et c'est compte tenu également de la situation actuelle. Nous sommes un pays démocratique, un état de droit. Lorsqu'il y a certaines occurrences, il faut faire la part des choses, notamment en termes d'état de nécessité. Le choix à faire par les gouvernements est clair. Nous avons des compatriotes, nous avons des individus, parce qu'il y en a qui ne sont pas congolais, dans des prisons amigaux à travers les pays. Il se trouve qu'aujourd'hui dans nos prisons, cela est un fait indéniable. Nous assistons à une sorte de proximité, comme on l'a dit. Par les faits, il y a fort à parier, en conviennent les experts, si les dispositions ne sont pas prises pour préserver les vies, désengorger les prisons, on risque d'assister à l'hécatombe si jamais le Covid-19 pénétrait le maison d'arrêt que nous avons à travers les pays. On a estimé qu'il fallait interroger les dispositions légales qui régissent les statuts de prisonniers, de détenus en République du Congo pour voir comment préserver les vies humaines, ce qui a été fait, notamment en termes de libération conditionnelle, de libération provisoire.
Quelles sont les personnes qui sont concernées par ces libérations? Parce qu'on parle des libérations provisoires et des libérations conditionnelles. Qui bénéficie de ces mesures?
Une mesure d'ordre public est générale et impersonnelle. La libération conditionnelle est accordée aux prisonniers qui ont été condamnés par une juridiction compétente, qui ont déjà aussi purgé une partie de leur peine, et par la suite, à la suite d'une démarche initiée à cette fin, ça peut être le fait des avocats conseils de celui qui est condamné, qui est en train de purger sa peine, ou simplement une initiative de celui qui a le prisonnier sous sa garde, à l'occurrence le directeur des prisons, qui peut effectivement aider à ce que un prisonnier bénéficie de la libération conditionnelle après avoir purger une partie de sa peine. C'est une institution légale en droit positif congolais. Alors, s'agissant de la mise à liberté provisoire, c'est également une institution reconnue en RDC qui bénéficie souvent à ceux qui sont poursuivis par le ministère public, et c'est souvent à l'étape de l'instruction préjudicielle que cette mise à liberté provisoire est accordée suite à une demande faite par le prévenu, adressée au magistrat instructeur du dossier au niveau préjudiciel, nous l'avions dit.
C'est pour désengorger cette grande prison, mais est-ce qu'on peut espérer que désormais les nombres de pensionnaires ou de prisonniers sera respecté désormais?
Nous, respectueux des engagements internationaux, c'est vrai, nous ne sommes pas les meilleurs élèves à la matière, tout comme ce n'est pas, si vous voulez, une exclusivité congolaise de par le monde. La situation dans les prisons n'est pas toujours de plus bonne. En tout cas, nous n'avons droit à aucun répit et nous nous devons de mieux faire. C'est pour que nous sommes au pouvoir, au gouvernement, pour jouer notamment ce genre de partition et de faire, ce serait effectivement observer le prérequis à la matière.
Le ministre congolais des droits humains, André Litté, ACBA.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
L'Afrique du Sud a annoncé la semaine dernière le lancement d'un programme de dépistage massif du Covid-19. Une soixantaine de camionnettes équipées de matériel pour tester la population doivent être déployées à travers le pays. Mais pour l'instant, l'Afrique du Sud semble manquer de moyens pour mettre en place son plan ambitieux. Reportage de Patricia Hur.
Deux camionnettes blanches et vertes sont garées à l'entrée d'une clinique dans le quartier d'Ilbro à Johannesburg. minutes devant chacune d'elles, une vingtaine de personnes font la queue.
Ils ont dit à la télé qu'ils feraient des tests pour le Covid-19. Je suis allée dans des supermarchés, il y avait beaucoup de monde. Je ne veux pas rester dans le doute, je veux savoir.
À l'intérieur travaillent des infirmiers du Laboratoire national de santé publique en tenue de protection. Aujourd'hui, ils sont venus pour tester le personnel de la clinique. Zito Bélé, scellé, masque de plastique sur le visage, gants sur les mains, prélève un échantillon.
On prélève oralement ou au niveau du nez. Ici, je vais à l'intérieur de la bouche. Avoir des symptômes ou pas, ce n'est pas toujours un indicateur du Covid-19. À Alexandra, un patient qui n'avait aucun symptôme a été testé positif.
Le résultat du test sera connu au mieux dans 24 heures, plus probablement dans 3 ou 4 jours. En Afrique du Sud, 67 laboratoires mobiles comme ceux-ci, équipés de kits de dépistage, doivent être déployés à travers le pays. L'objectif, des tests gratuits en grand nombre pour tenter d'arrêter la propagation de l'épidémie, explique le ministre de la Santé, Zweli Mkhize.
Le fait qu'il n'y ait eu qu'une faible augmentation des cas pourrait être le calme avant une tempête dévastatrice. Nous devons tester des centaines de milliers de personnes dans les communautés, en commençant par ceux qui ont des symptômes, puis en élargissant à tous.
10 000 agents communautaires équipés de questionnaires doivent aussi être mobilisés afin de faire du porte-à-porte et d'encourager les gens à se faire tester, particulièrement dans les communautés où des cas ont été confirmés et où il est difficile de respecter un confinement strict.
Nous avons commencé à distribuer des flyers sur le coronavirus pour éduquer la population. Il faut se laver les mains régulièrement, garder une distance sociale et aller consulter en cas de symptômes.
Mais pour l'instant, seule une poignée des laboratoires mobiles ont été déployés. Moins de 60 000 tests ont été réalisés dans le pays depuis le début de l'épidémie, pour l'essentiel dans des laboratoires privés. Seuls des tests rapides permettront d'augmenter cette capacité et le pays engage une course contre la montre pour y avoir accès. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
L'un des baobabs de la presse burkinabé est décédé lundi. Moustapha Tchombiano a été, début 1990, le premier à installer une radio privée dans le pays. L'homme était aussi musicien et promoteur de plusieurs activités culturelles au Burkina Faso. Sa mort lundi d'une maladie sans lien avec la pandémie est une énorme perte pour le pays, nous rappelle de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
À 74 ans, Moustapha Tchombiano, surnommé ici le Labli National, est décédé lundi. À son jeune âge, il avait passé 18 ans aux États-Unis avant de regagner le continent africain pour se lancer dans de nombreux projets. Parmi ces projets, on note la création de la première radio libre du Burkina, Horizon FM. Plus tard, il lancera la télévision TVZ Africa. Salifou Guigma est l'actuel directeur général de Horizon FM.
C'est une perte pour nous, ses proches. C'est une perte pour le Burkina Faso, c'est une perte pour toute l'Afrique, car vous le savez, Moustapha, c'est le pionnier, c'est l'un des précurseurs des radios libres en Afrique. Et à quel moment? Au moment où le continent faisait, j'allais dire, ses premiers pas dans le pluralisme démocratique, dans les années 90. S'il estimait que lui, il n'avait plus rien à démontrer, au regard de ce qu'il a fait, nous, en revanche, on avait toujours quelque chose à prendre de lui.
De nombreux journalistes et acteurs de médias ont fait leurs premières armes chez Moustapha.
C'est une personne qui ne se donne pas de limites et qui fait vivre ses idées telles qu'elles viennent.
Charlemagne Abissi a travaillé avec Moustapha Tchombiano entre 92 et 93. Il est aujourd'hui l'un des fondateurs de Savane FM, une autre radio privée de la capitale burkinabé.
C'est quelqu'un que nous perdons dans le milieu médiatique, dans le milieu culturel et dans le milieu artistique. Et ça, on n'en trouve pas beaucoup dans le cadre d'un siècle. Donc Moustapha, c'est un baobab qui nous quitte et qui va encore, je pense, marquer les esprits pendant longtemps.
De nombreuses manifestations au Burkina sont la marque de Moustapha, Tel Miss, le rallye de mobilettes de Ouaga, Ouaga Plage, la rue marchande du Fespaco. La liste n'est pas exhaustive. Aussi, Moustapha Tchombiano a été musicien. un homme donc aux mille idées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Elle est la première femme médecin du Maghreb et la Tunisie lui rend hommage. La Banque centrale du pays vient de mettre en circulation un nouveau billet de 10 dinars illustré pour la première fois par le portrait d'une dame, Taouida Ben Cher. C'est aussi une première dans le monde arabe, Jacques Aristide.
La docteure Taouida Ben Cheikh a été choisie il y a un an pour lui rendre hommage et aussi pour rendre hommage à la femme tunisienne, particulièrement dans le domaine scientifique, comme l'explique Abdelaziz Ben Saïd, un haut responsable de la Banque centrale de Tunisie.
Tout d'abord, elle a été sélectionnée dans le cadre de notre politique visant à donner priorité aux personnalités contemporaines. Deuxièmement, elle a été choisie pour honorer les femmes dans les secteurs scientifiques et médicaux.
Taouida Ben Cheikh est née le 2 janvier 1909 à Tunis, orpheline de père. Elle devient en 1929 la première Tunisienne à obtenir le baccalauréat et entame ensuite des études de médecine à Paris. En 1936, elle revient en Tunisie et ouvre un cabinet de pédiatrie dans la capitale avant de se spécialiser en gynécologie, une pratique alors dominée par les hommes. Figure du féminisme tunisien, elle a contribué à la vie culturelle, notamment en créant la première revue tunisienne francophone pour femmes, Leïla. Ancienne vice-présidente du Croissant Rouge tunisien, elle est décédée en 2010 à l'âge de 101 ans. Sa clinique était ouverte à tous, riches, pauvres, tunisiens ou étrangers, femmes et hommes. Pour le chercheur Abdissattar Amamou, Taouida Ben Cheikh avait un grand cœur, une femme qui a fait preuve d'amour pour sa profession et son pays.
Elle a continué toute sa vie à participer, à aimer et à donner de sa vie à la médecine et à la Tunisie. Et je crois que c'est pour ça que les Tunisiens, pour rendre hommage à cette grande dame, le premier médecin femme du monde arabe, qu'ils ont décidé de publier un billet de monnaie de 10 dinars sur lequel il y a l'effigie de ce grand médecin, Madame Taouida Bichir.
La mise en circulation de cette coupure intervient au moment où les médecins et tout le corps médical du pays sont en première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Et beaucoup de Tunisiens, comme Hamid Omri, saluent le geste de la Banque centrale.
C'est une grande initiative de la Banque centrale en dédiant particulièrement le billet à Taouida Ben Cheikh, la première femme médecin arabe. Elle montre le soutien apporté au personnel médical dans le contexte du coronavirus. J'espère que notre pays suivra ses traces.
Au verso du nouveau billet de 10 dinars, une illustration de poterie et de bijoux berbères rend hommage à la femme artisane, d'après la Banque centrale tunisienne.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde.
bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour.